Chapitre 5. Une promenade dans la voiture. Je réussis tant bien que mal à parvenir au bout du premier trimestre à Saint-Peters, et vers la fin décembre, ma mère traversa par le bateau à roues pour venir me chercher et me ramener, moi et ma malle, à la maison pour Noël. Oh, le bonheur, la joie sans mélange de me retrouver enfin avec ma famille après toutes ces semaines de discipline impitoyable. À moins d'avoir été pensionnaire dans sa toute petite enfance, il est absolument impossible d'apprécier les charmes de la vie en famille. Cela vaut presque la peine de s'en aller tant le retour est merveilleux. Je n'arrivais pas à croire que je n'étais plus obligé de me laver à l'eau froide le matin, ou de garder le silence dans les couloirs, ou de dire « monsieur » à tous les hommes adultes que je croisais, ou de me servir d'un pot de chambre avant de me coucher, ou de recevoir des coups de serviette humides lorsque je me trouvais nu au vestiaire, ou de manger au petit déjeuner du porridge plein de grumeaux grisâtres semblables à des crottes de mouton, ou de vivre toute la journée dans la peur permanente de la longue canne jaune posée sur la console dans le cabinet d'études du principal. Le temps était particulièrement clément lors de ces vacances de Noël et, par une extraordinaire matinée, toute la famille s'apprêta à partir pour sa première promenade dans la première automobile que nous ayons jamais possédée. C'était une énorme voiture française noire de la marque De Dion Bouton, équipée d'une capote rabattable. Ma demi-sœur, de 12 ans, mon aînée, elle avait alors 21 ans, celle qui venait d'être opérée de l'appendicite, en serait la conductrice. Elle avait pris deux bonnes demi-heures de leçons de conduite avec l'employé qui était venu livrer la voiture, et en l'an de grâce 1925, cet apprentissage était considéré comme amplement suffisant. Personne n'était obligé de passer un permis de conduire. Vous jugiez vous-même de votre compétence et dès que vous vous sentiez prêt à démarrer, vous vous lanciez joyeusement. Nous nous empilâmes tous à bord de la voiture, en proie à une excitation à peine supportable. Les exclamations fusaient. « Elle fait du combien? Elle peut rouler à 80 à l'heure? Elle peut faire du 90 ?» rétorqua la grande sœur. Son ton impliquait une telle assurance, une telle audace qu'il aurait dû nous faire frémir de peur. Mais il n'en fut rien, et nous nous mîmes à vociférer. « Oh, oui, roule à 90, tu nous promets de nous faire rouler à 90 ?»« Nous roulerons même plus vite que ça, sans doute !» annonça notre sœur en enfilant ses gants de conducteur et en nouant une écharpe sur sa tête, comme le voulait la mode à cette époque pour les automobilistes. La capote en toile avait été repliée, étant donné la douceur du temps, ce qui transformait la voiture en une magnifique torpedo. À l'avant se trouvaient trois d'entre nous, la conductrice au volant, mon demi-frère, de 18 ans, et une de mes sœurs, celle de 12 ans. À l'arrière, les quatre autres membres de la famille, ma mère, 40 ans, deux petites sœurs, 8 et 5 ans, et moi-même, 9 ans. Notre véhicule était nanti d'un équipement spécial que l'on ne trouve plus, je pense, sur les voitures de nos jours. Il y avait un deuxième pare-brise à l'arrière, destiné uniquement à protéger de l'air les passagers quand la capote était repliée. Outre le panneau central, le pare-brise comportait aux extrémités deux volets mobiles pivotant vers l'arrière pour dévier le vent. Nous étions tout frémissants de joie et de crainte lorsque la conductrice débraya et que la longue automobile noire s'ébranla. Nous nous mîmes à hurler. « Tu es sûr que tu sais comment t'y prendre? Tu sais où est le frein? Taisez-vous !» fit sèchement la grande sœur. « Il faut que je me concentre !» Nous descendîmes l'allée pour déboucher dans le village de Landaff lui-même. Fort heureusement, il y avait bien peu de véhicules sur les routes en ce temps-là. Nous croisions de temps à autre une camionnette ou un fourgon de livraison et parfois une voiture particulière, mais les dangers de collision étaient relativement rares tant que la voiture restait sur la route. La splendide torpedo noire traversa au pas le village, la conductrice pressant la poire en caoutchouc de la trompe chaque fois que nous croisions un être humain, fût-ce le commis bouché sur sa bicyclette ou un simple passant flânant sur le trottoir. Bientôt, nous émergeâmes dans la campagne, au milieu de champs verdoyants bordés de hautes haies, sans une âme en vue. « Vous ne pensiez pas que j'y arriverais, hein ?» s'écria la grande sœur en se tournant vers nous, un grand sourire aux lèvres. « Regarde donc devant toi !» dit ma mère avec nervosité. « Plus vite !» hurlâmes-nous. « Vas-y, roule plus vite, accélère, on fait à peine du 25 à l'heure !» Éperonnée par nos cris et nos railleries, la grande sœur commença à accélérer. Le moteur rugit et la carrosserie vibra. La conductrice se cramponnait au volant comme aux cheveux d'un homme qui se noie, et nous avions tous les yeux fixés sur le compteur de vitesse où l'aiguille grimpait lentement vers 30, 40, puis 45. Nous avions sans doute atteint la vitesse de 50 à l'heure lorsque nous arrivâmes à un tournant assez aigu. La grande sœur, n'ayant jamais eu à affronter pareille situation, hurla « Au secours !» écrasa le frein et braqua frénétiquement le volant. Les roues arrière se bloquèrent et dérapèrent brutalement, puis dans un merveilleux fracas de garde-boue et de métal, nous percutâmes la haie. Les passagers avant furent tous projetés à travers le pare-brise avant et les passagers arrière à travers le pare-brise arrière. Les éclats de verre, le triplex n'existait pas alors, volèrent dans toutes les directions et nous de même. Mon frère et une de mes sœurs atterrirent sur le capot de la voiture. Quelqu'un d'autre fut catapulté sur la route et une des petites sœurs au moins atterrit au milieu de la haie d'épines. Miraculeusement, néanmoins, personne ne fut vraiment blessé à part moi. Mon nez avait été presque sectionné lors de ma traversée du pare-brise et ne tenait plus que par un lambeau de peau. Ma mère s'extirpa de la mêlée, empoigna un mouchoir dans son sac, elle rabattit vivement ce nez qui pendait et le maintint en place. Pas une maison, pas une personne en vue, encore moins un téléphone. Un oiseau gazouillait dans un arbre un peu plus loin au bord de la route, sinon tout était silencieux. Ma mère, courbée sur moi à l'arrière de la voiture, me disait « Penche-toi en arrière, ne bouge pas la tête ». À la grande sœur, elle demanda « Tu ne peux pas remettre cette machine en route ?» La grande sœur appuya sur le starter et, à la surprise générale, le moteur démarra. « Dégage-toi de la haie, dit ma mère, et fais vite !» La grande sœur n'arrivait pas à trouver la marche arrière. Les pignons grinçaient les uns contre les autres dans un terrible bruit de métal torturé. « En fait, je n'ai jamais fait de marche arrière, » finit-elle par admettre. Tout le monde, à l'exception de la conductrice, de ma mère et de moi-même, était descendu de la voiture et se tenait sur la route. Le bruit des pignons de la boîte de vitesse était épouvantable. On aurait dit qu'on passait une tondeuse à gazon sur des cailloux. La grande sœur, cramoisie, marmonnait des gros mots, mais mon frère se pencha alors à la portière de son côté et demanda « Il ne faut pas que tu débrayes ?» La conductrice, à bout de nerfs, appuya sur la pédale de débrayage, les vitesses s'enclenchèrent, et une seconde plus tard, l'énorme bête noire, arrachée à la haie, bondit en arrière et alla percuter la haie d'en face, de l'autre côté de la route. « Essaie de rester calme !» dit ma mère. « Avance tout doucement !» Pour finir, la voiture cabossée fut sortie de la deuxième haie et s'immobilisa en travers, bloquant la route. Un homme dans une carriole tirée par un cheval apparut peu après. Descendant de sa carriole, il se dirigea vers nous et se pencha par-dessus la portière arrière. Il avait une grosse moustache tombante et portait un petit chapeau melon noir. « Vous avez fait un beau gâchis, pas vrai ?» dit-il à ma mère. « Savez-vous conduire une voiture ?» lui demanda ma mère. « Non, répondit-il. Et vous bloquez la route. J'ai un millier d'œufs fraîchement pondus dans cette carriole, il faut que je les porte au marché avant midi. »« Écartez-vous du chemin, » lui dit ma mère. « Vous ne voyez pas qu'il y a un enfant gravement blessé ?»« Un millier d'œufs fraîchement pondus !» répéta l'homme en regardant la main de ma mère, le mouchoir gorgé de sang et le sang qui coulait sur son poignet. « Et si je les porte pas au marché aujourd'hui avant midi, je pourrais pas les vendre avant la semaine prochaine. Et ce sera plus des œufs du jour, hein? Et j'aurai sur les bras un millier d'œufs pas frais que personne voudra. »« J'espère qu'ils seront tous pourris, » dit ma mère. « Maintenant, vous allez immédiatement reculer avec votre carriole. » Et aux enfants qui se tenaient sur la route, elle cria « Montez dans la voiture, nous allons chez le docteur !»« Il y a plein de verres sur les sièges, » glapirent-ils. « Aucune importance, » rétorqua ma mère. « Il faut que nous amenions cet enfant chez le docteur le plus vite possible. » Tout le monde reprit sa place dans l'auto, l'homme fit reculer son cheval et la carriole à une distance suffisante. La grande sœur réussit à redresser la Deux-Dion et à l'orienter dans la bonne direction, et enfin l'automobile, dont la splendeur n'était déjà plus qu'un souvenir, s'engagea tant bien que mal sur la grande route et mit le cap sur le cabinet du docteur Dunbar dans Cathedral Road à Cardiff. « Je n'ai jamais conduit en ville, » annonça en tremblant la grande sœur. « Il y a un début à tout, » dit ma mère, « roule !» Ne dépassant pas 10 km à l'heure pendant tout le trajet, nous arrivâmes enfin à la maison du docteur Dunbar. Je fus extirpé de la voiture et poussé à l'intérieur, avec ma mère tenant toujours le mouchoir saturé de sang, fermement plaqué sur mon nez tremblotant. « Seigneur Dieu !» s'exclama le docteur Dunbar. « Il est presque détaché. »«
J'ai mal, »
dis-je d'une voix gémissante. « Il ne peut pas rester sans nez jusqu'à la fin de ses jours, » déclara le docteur à ma mère. « J'ai bien peur qu'il n'ait pas le choix, » dit ma mère. « Absurde, » dit le docteur. « Je vais le lui recoudre. »«
Vous pourriez faire ça ?» demanda ma mère.
« Je peux essayer, » répondit-il. « Je vais le lui bander serré pour le moment et je serai chez vous avec mon assistant d'ici une heure. » De larges bandes de taffetas gommé furent collées en travers de mon visage pour maintenir mon nez en place. Puis je fus ramené à la voiture et à la vitesse d'un escargot, nous parcourûmes les 3 kilomètres qui nous séparaient de Landaff. Une heure plus tard environ, je me retrouvais étendu sur cette même table de la nurserie que ma grande sœur avait occupée quelques mois auparavant pour être opéré de l'appendicite. Des mains robustes m'immobilisèrent tandis qu'un masque bourré de ouate était appuyé sur mon visage. Je vis une main au-dessus de moi tenant une bouteille pleine d'un liquide blanc, et le liquide blanc fut versé sur la ouate à l'intérieur du masque. De nouveau, je sentis l'odeur écœurante du chloroforme et de l'éther tandis qu'une voix disait « Respire profondément, bien profondément ». Je me débattis frénétiquement pour descendre de la table, mais mes épaules étaient maintenues par un homme robuste pesant dessus de tout son poids. La main qui tenait la bouteille au-dessus de mon visage la penchait de plus en plus en avant et le liquide blanc s'égouttait sur la ouate. Des cercles rouges sang apparurent devant mes yeux, puis se mirent à tournoyer pour se muer enfin en un tourbillon écarlate qui entourait un profond trou noir en son centre. À des kilomètres au loin, une voix disait « Très bien, mon petit, on est presque arrivé maintenant, presque arrivé. Ferme les yeux simplement et dors. » Je me réveillais dans mon propre lit. Ma mère, le visage anxieux, était assise à mon chevet et me tenait la main. « J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais, » dit-elle. « Ça fait plus de 8 heures que tu dors. » « Le docteur Dunbar a recousu mon nez, » demandai-je. « Oui. Il va tenir ?»« Oui, d'après lui. Comment te sens-tu, mon chéri ?»« J'ai mal au cœur. » Après avoir vomi dans une petite cuvette, je me sentis mieux. « Regarde sous ton oreiller, » dit ma mère en me souriant. Je me tournai sur le côté, soulevai un coin de mon oreiller. En dessous, sur le drap blanc comme neige, était posé un beau souverain en or, frappé à l'effigie du roi George V. « Pour ton courage, » dit ma mère, « tu t'es très bien comporté, je suis fier de toi. »